Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Notre invité aujourd'hui,
Michel Prat, professeur à l'université Paris 1, Sorbonne et Paris 11 et professeur de finances publiques.
C'est fou, de droite ou de gauche, ils veulent tous baisser les impôts. Bon, c'est sûr, personnellement, j'aimerais bien en payer moins. Mais si on regarde les choses en regardant non pas son intérêt personnel, mais l'intérêt global de la société, est-ce que c'est si bon que ça de baisser les impôts? J'ai posé mon micro dans une salle des profs. Il y avait là des surveillants et des emplois jeunes, pas de profs à ce moment-là. Vous êtes pour la baisse des impôts, leur ai-je demandé? Et voici donc leur réponse.
Je suis pour la baisse des impôts.
Ben, ça dépend.
En tant que citoyen moyen, ouais.
Ça dépend. S'ils baissent pour en donner moins à ceux qui sont défavorisés, non. Et pour qu'il y ait encore plus de misère, non.
Si tu baisses les impôts...
Il y a moins de sous pour les...
Il y a moins de sous qui entrent, quand même, parce que l'impôt des gens moyens, c'est quand même eux qui font un peu le plus de fric. Quand même. Ce sont ceux qui sont... Là où il y a le plus de gens imposables. Hein. Si tu baisses ces impôts-là, ça fait moins de rentrées d'argent.
Tout à fait.
Donc, où se répartit, comment se répartit l'argent ensuite, c'est ça qu'il faut voir. Ça pose un problème. Si c'est pour qu'il n'y ait plus de gars pour conduire les trains, ça pose un problème. Hein. Tu vois ce que je veux dire, hein. Donc, une baisse, oui, mais dans quelle mesure?
En tant que contribuable, je suis pour la baisse des impôts. Mais si c'est pour baisser d'un côté et relever de l'autre, ça ne sert à rien.
Moi, je suis pour une augmentation du revenu, mais pas la baisse des impôts. Moi, je voudrais payer des millions d'impôts.
Ouais.
Et la conversation a continué comme ça pendant presque une heure. Ça s'est battu ferme dans la salle des profs. Michel Prat, vous qui êtes professeur, mais de finances publiques, donc vous voyez les choses d'une façon plus large, vous en pensez quoi, vous, de la baisse des impôts?
Il est vrai que c'est un sujet d'actualité. Presque tout le monde en parle. Mais avant de parler de baisse, rappelons peut-être ce que c'est que l'impôt. C'est tout simple, d'ailleurs, en termes de définition. Dans les cours... Et ce qu'on apprend à peu près à tous les étudiants, on leur dit c'est un prélèvement pécuniaire obligatoire et qui est effectué à titre définitif sans contrepartie. Alors faisons simple, ça veut dire quoi? C'est vrai, c'est un prélèvement financier qui nous est fait à chacun d'entre nous, chaque citoyen, et puis il est obligatoire, on ne peut pas y échapper, et il n'y a pas de contrepartie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas indiquer personnellement ce qu'on doit en faire.
D'accord, c'est le sens de pas de contrepartie.
Exactement. Immédiate, pas de contrepartie immédiate, parce que bien évidemment, d'ailleurs, les personnes qui étaient dans la salle des profs, ils étaient pleins de bon sens. Ils ont tout de suite posé la question, à quoi ça sert? Donc la contrepartie, c'est les charges publiques, l'intérêt général.
Mais quand on parle d'impôt, je pense que quand on parle de baisse d'impôt, on parle de baisse d'impôt sur le revenu ou sur les sociétés. Peut-être, vous pouvez peut-être rappeler ce que c'est que l'impôt sur les revenus. Chacun d'entre nous le sait, mais sur les sociétés, peut-être moins.
Oui. Disons que si nous parlons de l'État, par exemple, les impôts d'État, c'est l'impôt sur le revenu. Une des contributions. Faisons simple quelques chiffres, quand même, faut toujours parler chiffres quand on parle impôts. 1700 milliards budget de l'État, l'impôt sur le revenu, ça rapporte 350 à 400 milliards. Donc, on voit qu'il n'y a pas tout dans cet impôt sur le revenu. Alors évidemment, il y a l'impôt sur les sociétés, 200 et quelques milliards, plus divers autres impôts. Il faut bien arriver à 1700. Si on en dépense 1700, il faut bien en collecter.
Mais alors, par quel autre biais collecte-t-on des impôts?
Eh bien, vous avez pu voir que des impôts, il y en a beaucoup. Depuis les taxes parafiscales ou ceux qu'on ne voit pas. La TVA, par exemple. À chaque fois que l'on consomme, 19,6% que nous payons en supplément aux commerçants, qu'ils reversent à l'État. Voilà encore des milliards qui vont alimenter les caisses de l'État pour pouvoir le dépenser ultérieurement.
Pouvoir le dépenser ultérieurement, c'est-à-dire, vous pouvez préciser justement à quoi ça sert? Parce que des fois, on a l'impression peut-être de donner des sous, puis on se dit, ça sert à quoi tout ça?
Exactement. On se pose toujours cette question. Alors là, il faut quand même rappeler une petite chose importante, c'est une date, 1789. C'est la première fois où on s'est dit, tiens, on va collecter de l'impôt pour survenir effectivement aux besoins collectifs du pays. Mais pour la première fois, on a dit ça sera le Parlement, c'est-à-dire les élus du peuple qui vont décider. C'est donc quand même les citoyens qui ont des représentants qui vont décider ce que l'on va faire de cet impôt collecté, et en premier d'abord décider de le collecter avec les taux.
Et avant, c'était quoi ? C'était la cassette du roi ?
C'était quasiment la cassette du roi. D'ailleurs, il s'adressait à ses représentants fermiers et il demandait, en fonction de ce dont il avait besoin, collectez-moi tant d'argent. Et puis, c'était les seigneurs qui avaient déjà du mal, d'ailleurs, à collecter. Il y avait beaucoup de problèmes financiers pour les armées. Alors, au bout d'un moment, il n'arrivait même pas lui-même à collecter suffisamment. On en est arrivé à ce qu'il y ait des assemblées. On a réuni un peu tous ceux qui devaient contribuer. Et puis, c'est comme ça qu'est venu le parlementarisme en Grande-Bretagne, en France, où finalement, on s'est dit, pour obtenir de l'argent, il vaut mieux solliciter les gens. Donc les gens se sont réunis et le Parlement, petit à petit, s'est posé la question, tiens, comment collecter l'impôt, combien demander et pourquoi faire ?
Mais justement, pourquoi faire ?
Alors pourquoi faire ? C'est des charges publiques générales. Alors que fait-on actuellement avec l'impôt ? Eh bien, l'éducation, la justice, la police, les infirmières, par exemple, qui ont défrayé la chronique ces derniers temps, puisqu'il nous en manquait. Donc voilà beaucoup de tâches générales qui sont payées par l'impôt que chacun, auquel chacun contribue. Et disons que ça permet de, peut-être de résoudre un problème dont il va nous falloir parler. Justice fiscale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Justement.
Justement.
Parce que, effectivement, il n'y a que deux possibilités pour résoudre le problème des dépenses. Soit on les dépense soi-même à partir de ce que l'on gagne, et puis on a accès à des services. Ou alors, on essaye de mettre en commun pour tenir compte d'un problème qui a été évoqué principalement un peu avant la Révolution, le siècle des Lumières. Rousseau, c'est bien de temps en temps de faire référence à des gens qui ont réfléchi à la question. Et ils se sont dit, finalement, quand on s'enrichit, on peut s'enrichir très vite. Mais les inégalités, elles continuaient à augmenter. Ça a commencé au 18e, enfin, c'était bien avant, évidemment, mais ça s'est accentué, 18e, 19e, 20e, et on s'est dit, il serait peut-être bien que chacun contribue en fonction des revenus dont il dispose. Et en fonction de ses revenus, on va faire masse commune. Et comme cela, on arrivera peut-être à donner à tout un chacun le minimum d'activités auxquelles ils ont droit ou de services auxquels ils ont droit.
Qui seront égaux pour tous. L'école pour tous, l'hôpital pour tous, les routes pour tous.
Voilà.
C'est ça qui est derrière les impôts, alors ?
Ça commence comme ça, exactement. L'école pour tous, quand on va à l'école maternelle, primaire ou autre, bien évidemment, elle est normalement gratuite. Et un accès égalité. Et là, on verra qu'à chaque fois, on va reparler de quoi ? Égalité, liberté. Et puis, on parlera de fraternité, solidarité. On va revenir sur les trois bases, parce que qui dit collecter de l'impôt, ça nous limite un peu en liberté, puisque c'est obligatoire. Mais peut-être pour plus d'égalité, dans la mesure où on arrivera à satisfaire les besoins du plus grand nombre, et en particulier ceux qui ont très peu de revenus, ou pas du tout.
Aligre FM 93.1 et l'émission des sous et des hommes en compagnie de Michel Pratt, qui m'étonne d'ailleurs un petit peu, puisqu'il est en train de me dire que l'impôt sert à énormément de choses qui me semblent essentielles, l'école, les hôpitaux, la justice, toutes ces choses qui semblent vraiment extrêmement importantes et pour lesquelles il y a des manifestations d'ailleurs en permanence, justement parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, pas assez de juges pour juger les criminels. Il y a eu une affaire toute récente de quelqu'un qui a été remis en liberté, justement parce qu'on n'avait pas eu le temps de le juger, parce qu'il n'y avait pas assez de juges. Et puis d'un autre côté, j'entends des hommes politiques, notamment de gauche, qui n'arrêtent pas de dire « il faut baisser les impôts ». Alors, ça me semble un petit peu contradictoire, cette affaire-là.
Alors, c'est vrai que baisser les impôts, c'était le sujet de la discussion de nos amis de tout à l'heure dans la salle des profs. C'est quand même individuellement et immédiatement comme cela, a priori, on vous dit « vous payez moins », on a tous envie. Mais quand même, il y avait des remarques de bon sens, parce que une des personnes a dit « mais moi j'aimerais bien payer beaucoup d'impôts, parce que ça veut dire que j'ai beaucoup de revenus ». Et
oui,
c'est vrai. Alors, la baisse des impôts, quand elle est demandée comme cela, sont surtout ceux qui ont des aux revenus qui demandent cette baisse. Et les dernières mesures des gouvernements de gauche, ou de droite d'ailleurs, de baisser ces impôts ont surtout porté sur les revenus les plus élevés, parce qu'ils payaient un peu plus de 50% d'impôts. Alors, il faut peut-être faire une correction. Qu'est-ce que ça veut dire payer 50%? Est-ce qu'on donne la moitié de son revenu?
Bah, moi, c'est ce que j'avais compris, d'ailleurs.
Mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que là, il faut expliquer qu'on a un impôt progressif sur le revenu. Alors, ça veut dire quoi, impôt progressif? Ça veut dire que sur les tranches les plus basses de l'impôt, c'est-à-dire, en gros, sur les revenus de nécessité courante, on paye des taux faibles, 10%, 20%, 30%, et on paye 50% uniquement sur la part la plus élevée. Et je reviens à Rousseau. C'était un peu les idées qui étaient données à cette époque-là, au moment des Lumières, en disant, bah, les premiers revenus, ça sert à satisfaire nos besoins les plus immédiats. Bien sûr, se vêtir, se nourrir. Et puis le reste, quand on gagne beaucoup plus, sont des activités moins directement nécessaires. Alors on a considéré qu'on pouvait peut-être payer quand même un petit peu plus sur ces activités moins nécessaires, c'est-à-dire sur le surplus de revenus. C'est pour ça qu'on a un impôt progressif. On paye un peu plus pour la part supérieure de nos revenus.
Ça veut donc dire quand même que la première partie des revenus, même des personnes riches, est peu imposée, enfin pas plus que pour les gens normaux.
Exactement. Que ce soit la personne la plus riche de France, par exemple, elle ne paiera que 10% d'impôts, un peu moins même, sur sa tranche première de revenus. Donc, il y a quand même une certaine égalité, il n'y a pas de drame. D'ailleurs, un petit exemple, il y a une étude qui est sortie l'autre jour, comme par hasard, faisant le bilan de un siècle ou deux de paiement d'impôts sur le revenu pour savoir est-ce qu'on paye plus, est-ce qu'on paye moins. Et puis, on s'est rendu compte que, ma foi, au cours de ce début de siècle, il y a eu des périodes où on a payé beaucoup plus, et même dans une période récente. Qui se souvient qu'en 82, par exemple, la part supérieure, on dit 50% actuellement, c'était plus de 60%. Ça a même été plus de 70% quelque temps auparavant. Autant que l'on sache, il n'y a pas eu de drame au niveau de ces personnes qui gagnaient énormément.
Pourtant, on n'arrête pas de nous dire, mais ça va les décourager de travailler, ils vont fuir vers l'étranger, etc., etc.
Oui. Alors, c'est vrai que certains tentent de partir à l'étranger, mais on s'est rendu compte, finalement, ils étaient peu nombreux.
Oui, il y a une étude qui a été faite qui a montré ça.
Ils étaient peu nombreux. Alors, c'était surtout les quelques-uns, d'ailleurs, qui avaient oublié de payer leur impôt sur le revenu, parce que quand on gagne beaucoup, parfois, on a plutôt tendance à oublier de les régler. Mais, soyons sérieux, c'est quelques dizaines ou centaines de personnes sur nos millions d'habitants. On est bien en France, et en plus, on a quand même une politique de l'impôt qui n'est pas complètement idiote, mais il faut peut-être la préserver parce qu'à force de baisser, ben ça fera moins de rentrées. Et si on a moins de rentrées, on pourra avoir moins de services. Là, je voudrais renvoyer aux États-Unis.
C'est-à-dire ?
Eh ben, aux États-Unis, dans les années 60-70, il y a eu un fort mouvement pour dire l'impôt. Ils avaient même une formule à un moment certain. Ils ont dit l'impôt, c'est le vol. Ça reprenait la formule qu'on avait entendue au 19e avec la propriété. Là, l'impôt, c'est le vol. Donc, fort mouvement pour baisser les impôts. Et ça a été repris par de nombreux représentants, plutôt conservateurs d'ailleurs, des États-Unis. Et beaucoup d'États ont baissé leurs impôts. Mais alors, ce n'est pas si simple. On s'aperçoit, par exemple, en Californie, où il y a eu ce mouvement. Californie, c'est là où il y a la Silicon Valley, par exemple. Eh bien, les services publics ont baissé. Difficulté pour le fonctionnement de ceci, de l'entretien. Alors, on ne s'en rend pas compte immédiatement, mais quelques années après, on s'aperçoit que la fourniture d'électricité en Californie, on a été obligé de faire des coupures de courant, comme dans les pays en voie de développement, quand il y a des graves difficultés. On s'aperçoit que ce n'est pas si simple de baisser. C'est-à-dire, la réflexion sur l'impôt, c'est vrai qu'elle demande un débat, savoir de combien, où, comment les répartir, et puis surtout, comment on les utilise. Parce que très souvent, ceux qui demandent de baisser l'impôt, c'est peut-être parce qu'ils trouvent qu'ils en payent beaucoup, mais est-ce qu'ils ont bien compris ce qu'ils reçoivent en échange ?
Peut-être qu'ils pensent qu'ils pourraient éventuellement s'offrir des services extérieurs qu'ils se paieraient eux-mêmes.
Alors sans doute que pour les quelques-uns, 5-10% les plus riches, ils n'auraient peut-être pas besoin de sécurité sociale ou de tarifs attractifs pour les transports en commun, par exemple, ou l'école gratuite. Mais enfin, justement, je replais les formules quand même de tout à l'heure, liberté, égalité, fraternité, 89, c'était un peu d'essayer d'augmenter le niveau général. Et puis on s'est rendu compte que ces dernières années, on pouvait devenir riche très vite avec la nouvelle économie. On peut devenir pauvre également vite. Mais enfin, généralement, ils deviennent riches très vite et que les écarts se creusent. Et quand les écarts se creusent, qui en pâtit ? Eh bien, ceux qui n'ont pas beaucoup de revenus. Ou quand il y a une difficulté économique, c'est ceux qui n'ont pas d'emploi. C'est quand on n'a pas d'emploi, pas de revenus. est là. Comment accéder, comment poursuivre l'éducation des enfants? Comment aider à soigner? Il faut bien qu'il y ait une répartition des richesses pour compenser ces inégalités qui n'ont fait que grandir ces dernières années.
Aligre FM, donc toujours des sous et des hommes, et c'était Nilda Fernandez dans un titre qui s'appelle Suite. Tout à l'heure, on disait que un des arguments des libéraux, puisqu'on peut reprendre les arguments des libéraux, c'est toujours intéressant de les mettre en perspective, était que les personnes qui étaient fortement taxées au niveau des impôts, le fameux taux de 50%, allaient être découragées de travailler. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, on a vu dans un premier temps que ce taux de 50% était relatif. Hein. Il était bien plus élevé avant, donc il a déjà diminué. Et puis, il faut peut-être se poser la question, est-ce que tout le monde travaille uniquement pour la rentabilité financière économique propre? Parce que sinon, il n'y aurait plus beaucoup d'activités dans notre pays. Regardez tous ces enseignants, tous ces gens qui soignent. Ils n'ont pas des revenus extraordinaires et pourtant, ils sont vraiment parmi les plus dévoués dans leur activité. Il n'y a pas que le gain financier qui est attractif. Qu'est-ce que serait cette société s'il n'y avait que cela? On vit quand même pour un certain nombre de valeurs, autres que la valeur financière. Surtout quand les dépenses de première nécessité, bien au-delà, sont satisfaites. Parce que quand on parle de 50%, c'est des revenus de plus de 600 000, 1 million de francs. Ah. Il y a de quoi ils ont on peut quoi faire face.
Oui, ils ont de quoi manger.
Sans doute.
Le deuxième argument qu'utilisent souvent les libéraux est de dire qu'il faut qu'on cesse de taxer aussi fortement les entreprises par le biais des impôts sur les entreprises parce que ça va gréver la compétitivité française. Est-ce qu'il y aurait un argument qui pourrait aller dans le sens inverse en disant mais si, au contraire, il faut qu'ils payent des impôts et c'est normal?
C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de l'impôt sur le revenu individuel, mais il y a l'impôt sur la société. On a vu les montants tout à l'heure. Alors, il y a un premier élément quand même. C'est que le taux de l'impôt sur la société en France est équivalent à peu près à ce qu'il y a dans les autres pays. Donc, en termes de compétitivité, surtout qu'il va baisser encore puisqu'on va se rapprocher des 30%. Donc, on va être très proche des autres pays. Donc, il n'y a pas de difficulté majeure en termes de compétitivité. Puis, il y a l'autre aspect. Quand une société s'implante dans une zone industrielle, elle bénéficie quand même, elle aussi, comme un individu, de services communs. Elle a à sa porte le téléphone, l'électricité, l'eau. Et ça, c'est bien nos impôts collectivement qui ont permis d'avoir cet ensemble. Et d'ailleurs, si les entreprises viennent, elles viennent quand l'ensemble de ces services est réalisé. Et on pourrait même pousser peut-être un peu plus loin. On pourrait se poser la question. Les gens qui viennent travailler, ils ont été formés. Ils ont fait des études. Et c'est pas l'entreprise qui les a payés. Et qui plus est, en France, on dit souvent que nous avons beaucoup de gens bien formés, qu'on fait beaucoup d'études. Eh bien, c'est quand même grâce à l'ensemble des impôts versés par les individus, par les sociétés, que l'on arrive à avoir des entreprises compétitives. Donc, quand on dit compétitivité, difficulté si on paye trop d'impôts, mais il faut voir qu'en face, sinon, il faudrait que les entreprises forment elles-mêmes comme auparavant. C'est pas si simple.
C'est pas si simple, effectivement. Alors, j'ai encore une petite question derrière les fagots, mais décidément, je ne comprends pas pourquoi les hommes politiques, et en particulier, encore une fois, les hommes politiques de gauche, demandent sans arrêt que les impôts soient baissés. Il suffit d'écouter Fabius, c'est éloquent.
Alors là, les idées qui dominent au niveau de la société sont vraies, sont reprises souvent par le plus grand nombre. C'est sans doute qu'il paraît simple pour recueillir l'assentiment du plus grand nombre de dire on va payer un petit peu moins. Et on oublie donc toutes ces activités d'intérêt général qu'il nous faut fournir. D'ailleurs, quand il, et en particulier les responsables de gauche, quand ils disent on va baisser les impôts, ils disent par ailleurs quand même que c'est pas pour tout le monde, qu'il va falloir répartir différemment. Le discours est souvent compliqué quand même dans ce domaine. C'est pour ça qu'on a du mal à s'y retrouver tout à chacun, que l'on s'y intéresse d'ailleurs ou que l'on s'y intéresse pas. Et à meilleure preuve, il y a une réforme sur la fiscalité qui était prévue depuis les années 70. On a reporté ça en 90, on n'a toujours rien vu. Donc de temps en temps, on les baisse, les impôts, mais de temps en temps, on les augmente aussi. Alors, c'est paradoxal, parce que ce soit des responsables, disons, de la majorité actuelle ou de la précédente, à tour de rôle, ils ont augmenté, puis baissé. On voit bien que le discours et même leur référence n'est pas si solide que ça en a l'air. Alors, vous allez me poser la question, sans doute, mais ces mouvements, c'est souvent également les petits artisans, les petits commerçants. On a eu ces mouvements-là de forte demande de baisse d'impôts parce qu'ils disent, nous, petits commerçants, petits artisans, on est submergés d'impôts. Mmh. Alors, effectivement, il y a eu ces mouvements-là au niveau de notre pays qui sont Poujade, Nikou, repris régulièrement. Alors, souvent, ils oublient les mesures de facilité fiscale. Et puis, on a parfois un problème quand même, c'est la multitude d'impôts. C'est vrai qu'ils sont nombreux, et souvent au bout de 2 ans ou 3 ans d'activité. Mais là, vous voyez, on rentre plus dans la technique même que sur le principe. Il faut bien qu'on contribue tout à chacun, et finalement, on peut se dire, si on a beaucoup d'impôts à payer, c'est peut-être quand même qu'on a eu beaucoup de revenus. Parce que je n'ai pas encore de connaissance qu'on ait sollicité quelqu'un pour payer un impôt sur quelque chose qu'il n'a pas gagné.
Donc c'est comme le disait Julia qu'on a entendu tout à l'heure dans le petit micro-trottoir, il faut souhaiter payer beaucoup d'impôts.
Il faut souhaiter beaucoup payer d'impôts. Je crois qu'elle a finalement raison parce que ça voudrait dire que la situation ne serait pas déplaisante pour tout à chacun. Mais effectivement, au tout début, on a parlé un peu d'un terme « justice fiscale ». Et là, on peut se poser la question, finalement, à quoi ça sert? Parce que le citoyen, il a envie d'avoir, qu'on lui rende compte. Alors, c'est là où il y a quelque chose de fondamental. Quand on parle d'impôt uniquement sur le plan économique ou même sur le plan technique juridique, on oublie quelque chose. L'impôt, c'est un acte politique. C'est la vie de la société. C'est toute notre vie qui en dépend au niveau de ses ressources. Et donc, il faut forcément se reposer la question des grands choix politiques. C'est peut-être ce que l'on oublie souvent au niveau de l'impôt. Et le citoyen, lui, il aimerait bien être peut-être plus sollicité pour choisir vers quel type de dépenses. Parce qu'effectivement, on peut considérer qu'il y a des dépenses importantes, d'autres non. N'oublions pas ce que nous avons dit au début. C'est une contribution obligatoire. Mais on ne décide pas de son affectation. C'est l'ensemble des élus qui doivent, et représentants des citoyens, qui doivent décider là où faut porter notre effort. Et dans ce cas-là, peut-être que les gens arriveraient, y compris ceux qui demandent la baisse d'impôts, seraient peut-être plus motivés pour se poser la question, mais qu'est-ce qu'on en fait de mon argent?
Et est-ce que c'est justement ce qui est en train d'être décidé par nos élus au moment du vote du budget de l'État? J'entends parler de ça sans arrêt ces derniers temps. En vérité, je ne comprends pas grand-chose.
C'est vrai qu'on est dans l'actualité. Il y a 2 jours, le ministre de l'Intérieur présentait le budget du ministère de l'Intérieur en disant qu'il faut augmenter les moyens pour que je puisse augmenter la sécurité dans les quartiers et autres. Alors, c'est vrai que c'est là que ça se décide, hein, de toute façon, la répartition des impôts. C'est vrai qu'on a tendance quand même à noyer cela dans des choix difficiles parce que, en règle générale, si on regarde le Parlement quand il vote, 96% des dépenses qu'il vote sont déjà décidées, c'est les mêmes que l'année d'avant, pour satisfaire les mêmes besoins. On s'aperçoit que la marge de manœuvre est faible, finalement, des mesures nouvelles. C'est peut-être là qu'il y aurait à travailler, se reposer un certain nombre de questions, mais qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant à ces impôts? Mais ça veut dire l'intervention du citoyen dans la vie publique. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aux dernières élections municipales, on a vu monter des gens qui sont regroupés en liste citoyenne parce qu'ils se sont posés la question. Alors évidemment, c'était plus au plan local, mais peut-être que, à partir de la question qui a été posée au début à nos amis de la salle des profs, peut-être qu'eux-mêmes aimeraient bien y réfléchir plus souvent, parce qu'entre nous, on a tendance à en discuter.
Et est-ce qu'il existe actuellement des moyens par lesquels les citoyens peuvent mettre leur nez finalement dans le budget de l'État?
Alors là, effectivement, l'État, ça paraît loin.
Bah oui.
Comment mettre son nez? Alors évidemment, c'est par le vote de nos représentants. Mais je crois que systématiquement s'intéresser d'abord, s'informer, et puis essayer de poser la question tout simplement dans notre vie quotidienne, quand on nous sollicite par rapport aux transports en commun, ne faudrait-il pas mettre un peu d'argent pour améliorer les transports en commun dans la région parisienne? C'est un vrai sujet. La fiscalité au propos de l'environnement. C'est vrai que là, on s'aperçoit que finalement, la difficulté, c'est de prendre des décisions. On a tendance à vivre sur ce qui existait auparavant. Et c'est peut-être là où les citoyens doivent intervenir dans leur collectivité, dans leurs représentants, en exigeant un compte-rendu. Sur quelles décisions ils ont voté? C'est intéressant de demander à son député pour quelles raisons il aura voté le budget du pays et pour quelles raisons il aura voté tant de milliards pour la défense nationale ou tant de milliards pour l'éducation ou tant de milliards pour l'environnement. Par exemple, il y a une question à poser à nos députés. Pour quelles raisons ils abandonnent la taxe sur les produits polluants? Ça, je crois qu'il y a matière à réfléchir, à discuter. Mais c'est vrai que c'est une autre question, parce que là, après, on pose le problème de la vie politique.
Diable. En tous les cas, donc, il faut peut-être s'arrêter de râler, revendiquer, interpeller les élus. Je vous remercie en tous les cas d'être venu nous expliquer ce qu'était l'impôt et surtout à quoi ça servait, à nous faire nous rendre compte que c'est une chose importante. Vous étiez donc à l'écoute des sous et des hommes. Vous pouvez nous écrire. Alors c'est nouveau, ça vient de sortir. On peut m'envoyer un petit mot cette fois sur le mail en tapant www.aligrefmtoutsaattaché.org. Et à l'intérieur du programme, vous trouverez l'émission des sous et des hommes. Il y a une petite enveloppe, vous cliquez dessus et je suis là pour ainsi dire. Autrement, vous pouvez m'écrire au 42 rue de Montreuil, Paris 11e.